Où vivrons-nous demain par Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des mobilités telles que je vous l'avais annoncé la dernière chronique. Alors, le mot mobilité va vous renvoyer certainement à des chiffres, des statistiques, un sujet ardu, complexe. Nous allons essayer au contraire de simplifier et de montrer qu'il s'agit d'un sujet démocratique, d'un sujet éternel, qui est lié à l'histoire de l'homme. On peut dire que on peut avoir une approche philosophique, une approche anthropologique de ce sujet des mobilités et ensuite de le ramener à nos réalités présentes de notre époque, mais aussi des réalités qui seront près de chez nous, à Toulouse, par exemple. Donc, on pourrait dire que le monde s'est toujours divisé entre sédentaires et nomades. Le sédentaire, c'est celui qui s'enracine, et c'est un fondement de la nature humaine. Et également, il y a le pendant, l'opposé, qui est ce désir de bouger, de se déplacer, d'aller voir ailleurs, qui est le nomade, et qui est une particularité aussi forte de la nature humaine dans cette pulsion de désir d'ailleurs. Donc, le problème entre nomades et sédentaires a été certainement le moteur de la plupart des guerres dans notre histoire, dans l'histoire du monde, et certainement dans l'histoire contemporaine la plus récente, et dans les conflits que l'on peut avoir aujourd'hui, notamment ceux du Moyen-Orient, où le nomadisme de Daesh s'oppose à notre supposé enracinement territorial de nos civilisation. Alors, on va ramener cela à notre époque et de voir que nous sommes aujourd'hui, et c'est l'hypothèse que je formule, passés dans le monde, dans la civilisation, dans l'ère, je ne sais pas comment on peut dire, de la mobilité par rapport au siècle précédent. Et ça, c'est une notion qui nous apparaît au XXIe siècle et que je ferai remonter bien plus tôt au XXe siècle et même à la fin du XIXe siècle. En effet, cette mobilité, elle se traduit par la machine. Bon, ce que je dis est une évidence, à la fois donc le train d'abord, puis tous les aspects mécaniques du déplacement qui vont être des véhicules automobiles, du train, donc des paquebots, des avions également. Alors, il y a cet aspect de la fin du XIXe siècle n'apparaît pas toujours aussi brutal, parce qu'il se mélange avec un grand nombre d'innovations, mais qui font partie de révolutions artistiques et qui font partie de cet ensemble de la mobilité. J'aimais l'hypothèse également que le grand drame qu'a été la guerre de 14 était une réaction à cela, parce que il faut dire que tous ces changements de civilisation ne sont pas des longs fleuves tranquilles, et qu'il y a effectivement mais il y a des freins, il y a des obstructions, à tous les changements. Et là, on en a un qui se traduit par un conflit mondial, un conflit incroyable, mais qui est surtout caractérisé par quelque chose qui est étrange, c'est cet enfouissement que sera la guerre des tranchées qui justement est totalement différente de ce qu'ont été les mouvements des guerres jusqu'alors. Et là donc, je pense qu'il y a une sorte de drame qui n'a pas été traduit comme tel, mais donc je donne cette version. Et puis aussi, on pourrait faire un parallèle avec notre époque, où le 21e siècle aussi est arbouté contre la mobilité, alors là d'une manière bien entendu bien plus douce et pacifique, mais qui se traduit notamment par l'écologisme qui nous culpabilise dans nos déplacements d'avion, de bateau et bien sûr le déplacement automobile qui va être au cœur des problématiques récentes et des problématiques de l'urbanisme, puisque l'urbanisme est notre sujet et notre guide. Alors, l'idée d'un sens de l'histoire, justement, qui serait et qui serait une sorte de continuité dans l'histoire est une notion assez récente et qui date de donc justement de ce 19e siècle, Auguste Comte qui fait l'histoire des civilisations passant de l'enfance à l'adolescence à la maturité à la vieillesse et qui se recoupe avec la vision marxiste du sens de l'histoire et qui est une vision très nouvelle, très surprenante par rapport au passé, où le passé était vu comme des cycles. Alors les cycles ont un côté bien plus rassurant, puisque on sait que quelque part le changement va nous ramener à une sorte de semblable d'un passé qui n'est pas vécu forcément d'une manière négative. Dans le sens de l'histoire et dans le progressisme, on a vu ce qui donne le titre à l'émission, c'était ce livre de Ragon qui montrait une vision totalement optimiste du monde. Une vision qui était, on peut dire, d'une assez grande naïveté, qui montrait « nous vivrons-nous demain dans des villes magiques » et il n'y avait absolument aucune restriction, aucune sur les dangers possibles de ce progrès, de la science, de la technologie, tout était vu d'une manière positive. Alors évidemment, on en a parlé, mais c'est tout à fait l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui, où nous sommes passés de cet optimisme un peu béat à un catastrophisme avec une vision totalement négative du progrès et un avenir qui, au lieu d'être radieux, dès la demain qui chante, est devenu totalement anxiogène. Alors c'est ce qui, justement, n'existe pas comme je disais, dans les cycles. Et nous sommes aujourd'hui devant cette vision. Donc je pense personnellement que il s'agit d'une manière totalement fausse de voir l'histoire des civilisations, et il vaut mieux les penser justement avec des cycles. Alors évidemment, on ne revient pas, le temps avance, on ne revient pas exactement dans les formes identiques, mais on a des grands mouvements et aujourd'hui nous sommes passés dans une ère qui est la mondialisation, dans l'ère de la communication, de la mobilité, alors mobilité physique, mobilité des marchandises et des biens, et également, et c'est aussi extrêmement important, la mobilité de l'information qui se passe à travers, d'une manière spectaculaire, depuis une vingtaine d'années, à travers les réseaux. Alors ce phénomène n'est pas tout à fait récent. On peut dire que le 19e siècle a été le moment où cette diffusion immédiate s'est créé, et tout d'abord par les rotatives des machines qui ont distribué les quotidiens dans une sorte d'immédiateté, ce qui n'était pas le cas jusqu'auparavant avec l'imprimerie, qui était un processus lent de production d'ouvrages imprimés. Et là, on a, avec la rotative mécanique, l'immédiateté de l'information, qui aujourd'hui, bien sûr, est reprise par, à travers le média à travers lequel je vous parle, et puis toutes les sources d'information que nous pouvons avoir. Alors, ce basculement d'une civilisation à une autre est quelque chose qui est mal perçu et, comme je vous disais, qui est perçu d'une manière anxiogène, mais la mondialisation a aussi des avantages, mais elle a, comme tous les faits humains, elle a aussi ses inconvénients. Alors aujourd'hui, nous avons donc une civilisation qui est mondialisée avec ses réseaux et ses échanges permanents, et un phénomène qui nous échappe, qui apparaît comme un enracinement en réaction à la mondialisation. Alors là, j'émets une hypothèse contraire, c'est que la mondialisation, qui est justement le fait de ces déplacements permanents et de cette mobilité, supprime en quelque sorte les territoires ou la notion territoriale des frontières et des enfermements. Alors là, qui nous ramène justement à nos villes, nos campagnes, mais aussi nos régions, nos pays, et nos continents. Et nous avons une sorte de flou à travers ces voyages et ces informations. Et en même temps, le phénomène qui est lié à cela et qui n'est pas, comme on l'entend dire, une réaction à la mondialisation, c'est que, en même temps que l'on se déplace, ce déplacement crée des identités, puisque on a une identité par rapport aux autres, donc la manière de se penser en tant que français ou régional, occitan, c'est justement à travers le voyage et le déplacement. Bon, ça a déjà été dit depuis toujours. Stendhal l'a dit, que c'était le miroir que l'on déplaçait le long du chemin, et de nombreux auteurs ont dit que la manière de se rendre compte de qui on était, c'était justement à travers les voyages et à travers l'ailleurs et la confrontation avec l'autre. Donc, ce phénomène qui apparemment surprend de ces identités est en fait le même phénomène qui est celui d'une nouvelle civilisation, qui est une civilisation de la mobilité. Alors, je vais ramener ce sujet à des choses plus terre-à-terre, qui nous ramènent à notre sujet des mobilités immédiates dans notre environnement. Et en attendant, nous allons écouter Oscar Peterson dans Autumn Leaves, les feuilles d'automne, ces deux saisons. Thank you. J'avais parlé dans les chroniques précédentes d'une fausse lecture des centres comme réservoir de l'activité avec autour les villes dortoirs, ce qui est une vision datée, on peut dire, du XXe siècle, en tout cas de l'avant-guerre et de l'après-guerre, où effectivement, il y avait cette réalité. À Toulouse, par exemple, il y avait à l'intérieur de l'agglomération, il y avait les magasins généraux, la cartoucherie, la dépêche du midi, une ville industrielle et commerçante avec ses grands magasins. Il n'y avait pas de grandes surfaces autour. L'Ognat aussi, enfin, donc, tout un complexe industriel, commercial, et c'est vrai que tout autour il y avait une ruralité et la ville attirée par ses activités à la fois industrielles et commerçantes. Donc cette époque n'existe plus et on a toutes ces activités qui se sont ou ont changé ou sont partis ailleurs. En tout cas, nous sommes dans une société aujourd'hui due à cette mobilité, on peut dire, si elle n'est pas gratuite, en tout cas qui n'a pas du tout le coût qu'elle avait dans les époques précédentes, en tout cas les coûts diminuant d'année en année. Et donc on a une sorte de dispersion qui n'est pas un phénomène négatif, puisqu'au contraire, on peut dire qu'il y a un rééquilibrage des territoires, et ça c'est un phénomène positif. Donc cette notion négative d'étalement, de mitage, qui sont des mots péjoratifs, me paraît pas de mise aujourd'hui dans la réalité du monde de mobilité dans lequel nous sommes passés, non seulement notre région, notre pays, mais le monde entier. Alors donc, ces centres-villes qui sont devenus non pas dans cette opposition de la ville active et de la ville dortoir, mais c'est paradoxalement, c'est un peu le contraire qui se passe. C'est justement les banlieues qui sont devenues actives et la ville qui devient en fait le dortoir des riches, le résidentiel, les zones résidentielles, les quartiers résidentiels, les immeubles résidentiels ont remplacé les activités, par exemple les magasins généraux, Pont Jumeau, etc. Donc tout cela et n'est pas prise en compte aujourd'hui, où on continue de penser la ville avec les rocades. On peut dire que l'urbanisme qui a été fait par les ingénieurs de l'après-guerre, qui avaient une vision très très comptable, très technicienne de la circulation, on peut dire, hors des enjeux environnementaux, humains, architecturaux, etc. Mais bon, qui a eu aussi quelques effets positifs, mais on n'a fait que renforcer une vision qui était la vision médiévale de la ville dans ses murs, avec une muraille qui est aujourd'hui, qui a été d'abord les boulevards dans la plupart des villes, et puis ensuite la rocade, et puis on reparlerait d'une autre rocade, c'est-à-dire toujours pareil, des zones circulatoires là, qui sont tout autour de la ville.
En fait, les déplacements ne sont pas du tout cela. Donc, les embouteillages, par exemple, sur la rocade que l'on appelle intérieure, qui est la rocade ouest, c'est essentiellement non pas du pendulaire du centre-ville vers les banlieues, mais c'est des placements des zones d'activité qui sont aujourd'hui la Bège, Ramonville vers les zones qui sont Blagnac, Saint-Martin-les-Touches, Aussonne, bon, là où sont les grands complexes industriels d'Airbus. Et donc, on a ces mouvements pendulaires entre les zones résidentielles qui sont au nord et qui sont au sud. Et la rocade est un lieu de transition pendulaire, effectivement, matin et soir, avec effectivement des zones de bouchons. Par exemple, la sortie pour aller sur justement la route d'Auch, là, qui dessert toutes ces zones, est à une voie, ce qui est absurde et qui conduit à un bouchon constant sur des kilomètres. Bon, tout ça pourrait être réglé d'une manière ponctuelle, non pas par des mesures radicales qui vont être transformées en boulevard, comme j'entends dire, ou en zone vélo, ce qui est évidemment totalement absurde, mais on peut avoir des tronçons d'accès qui sont étudiés justement en fonction de ses besoins, mais aussi on pourrait avoir en parallèle des aménagements de type vélo, pourquoi pas piéton, en tout cas des parkways comme aux États-Unis, où on a à la fois des voies qui sont à la fois agréables et qui sont à la fois des voies qui ont leur rôle de desserte et de circulation. Ceci n'empêche pas cela. Alors aujourd'hui, il faut rappeler quelques chiffres entre la population du centre-ville, et quand je vois aujourd'hui qu'il y a des propositions d'une association qui de pieds, de roues, bon, qui propose que l'axe est-ouest rue de Metz, Pont-Neuf soit entièrement piéton et vélo, c'est quelque chose qui me paraît pas très très réaliste. Alors, j'avais parlé de l'axe principal, qui est un axe nord-sud, avec toute la série d'institutions qui étaient sur cet axe, et on peut dire que l'axe inverse, est-ouest, celui qui conduit aux zones industrielles et même commerciales. Vous savez, c'est pas un hasard, hein, à la fois une concentration sur Blagnac portée des grands centres commerciaux en même temps que les grandes zones d'emploi. Alors, si le centre a un rôle, il est justement une sorte de plaque de diffusion et symbolique de la ville, et elle doit être désenclavée et non pas refermée, comme j'entends dire aujourd'hui, par cette porte, ce qui est totalement surréaliste, de rétablir les octrois de l'ancien régime ou les portes médiévales ou celles de la ville romaine de défense. Donc aujourd'hui, cette vision que l'on pourrait chiffrer, par exemple, sur les populations qui sont concernées, on peut dire un chiffre, par exemple, c'était les 80 000 personnes qui habitent dans le centre-ville, qui sont à mettre en parallèle avec la population du Grand Toulouse, le Grand Toulouse formé de 34 communes, qui fait 800 000, ça veut dire qu'il y a un dixième. Donc, ce dixième de la population du centre-ville, parmi cette population, quel est le pourcentage de gens dont les déplacements sont uniquement en vélo?
Oui, alors donc, en plus, une fois qu'on aura enlevé à tout cela les personnes qui, par leur métier, sont sont obligés de transporter soit des dossiers, soit d'avoir des outils comme les artisans, soit également d'avoir l'obligation d'être dans une tenue qui ne soit pas du tout compatible avec le vélo. Bon, on se trouve avec une population qui est quand même très limitée, et on peut dire que ramener à la métropole les cyclistes urbains qui peuvent emprunter cela, bon, représente 1 à 2% de la population de la métropole, ce qui est quand même assez peu et qui ne me paraît pas très démocratique. Donc, il est assez important aussi de ramener à des données chiffrées et de voir que des groupes qui ont une expression assez forte dans le débat public ne représentent qu'une partie faible de la population. Donc, le problème de ces mobilités urbaines, en conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a l'adaptation aux réalités. Alors, vous savez que les villes qui n'ont pas une économie florissante, ben, elles n'ont pas de problème de mobilité. Personne ne bouge parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, si Toulouse a des embouteillages et a des circulations et des problèmes de circulation, c'est aussi le signe d'une bonne santé économique. Et je vais le dire d'une manière assez paradoxale, l'embouteillage est aussi un moyen de régulation, parce que les embouteillages, à un moment donné, quand ils durent trop longtemps, eh bien les gens trouvent des moyens parallèles. Alors, faut-il encore qu'ils existent ? Ça veut dire les transports en commun, ça peut être aussi d'autres voies. Et c'est aussi le rôle de la puissance publique de donner ces différents choix, et pas d'une manière autoritaire, mais de donner aux gens la possibilité d'emprunter suivant leur parcours de vie, leur famille, leurs conditions, et sans penser que on va faire des attributions de logement par rapport domicile-travail. Je pense qu'une société démocratique se doit de laisser une liberté aux gens, une liberté de mouvement, et c'est le fond de nos libertés. Et on sait bien que les régimes totalitaires, justement, commencent par restreindre ces libertés, ce déplacement. Donc, de laisser le choix à la fois de choisir son travail, de choisir les lieux où on veut travailler, les lieux où on veut habiter, et aussi les différents moyens que l'on peut choisir pour avoir de la mobilité. C'était « Ouvrirons-nous demain ?» Merci à Hugo qui officiait la technique. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à tous et à toutes, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de « Où vivrons-nous demain ?»